Chérie, écoute un peu.
Eh ben vas-y, je t'écoute.
Radio Campus 88.3.
Et maintenant, je vais te dire quelque chose.
C'est-à-dire une chose que je n'ai jamais dite à personne.
Radio Campus.
J'ai le plaisir de vous présenter
Radio Campus 88.3 FM.
C'est bien, tenez-moi informé sur tout, d'accord? Il n'y a pas de secret.
Les clitoriciennes, Radio Campus 88.3, on est très heureuse de vous retrouver pour notre émission du mois de novembre. Glitch, ta petite pensée du mois de novembre, on t'écoute.
Alors, le 25 novembre, comme vous le savez, c'est la journée internationale de lutte contre les VSS et croyez-moi, on va en avoir bien besoin. Je me suis dit que je vous emmenais faire un petit tour du monde du droit des femmes. Alors, on commence par l'Afghanistan, où le gouvernement a démenti qu'il avait interdit aux femmes de se parler entre elles. Enfin, que dans des cas exceptionnels. Et puis bon, on leur demande juste de pas sortir sans chaperon, de voiler leur corps et leur voix, et de ne pas chanter ni de déclamer la poésie. Rien de bien méchant, faut pas râler finalement. Pendant ce temps, en Irak, le gouvernement veut faire passer l'âge du consentement de 18 à 9 ans. Donc, en plus de faciliter le mariage des enfants, l'amendement en question obligerait les femmes à renoncer à leur droit de divorce, de garde et d'héritage. Quel bonheur! On va regarder du côté de l'Occident, parce qu'on sait bien que nous, on n'est pas pareil, on est mieux, toujours. Enfin, donc après 2 ans à restreindre le droit de l'IVG dans un certain nombre d'États, les États-Unis ont décidé de réélire un type raciste, sexiste et LGBT-phobe à la tête de leur pays. Et cette fois, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas et qu'on voulait voir ce que ça voulait donner. Je rappelle quand même que le lobby pro-Trump Heritage Foundation déclare dans son projet 2025 qu'il veut interdire la pilule abortive, entre autres mesures très sympathiques. Et je termine ce tour du monde. Ah non, pardon, je voulais préciser aussi que ça a donné l'occasion à un white suprémaciste de dire que « Your body, my choice », évidemment, charmant messieurs. Et on va finir en France, puisqu'on en... ça vaut le détour. On n'en finit plus d'entendre les horreurs du procès Mazan. Mais je suis quand même outrée d'entendre ce dernier homme qui a quand même dit qu'il voulait rencontrer du monde et aller au théâtre. Bref, vous l'aurez compris, on en a bien besoin de cette journée de lutte contre les VSS pour être ensemble, pour se donner de la force, pour rire, pour chanter, pour crier, pour hurler, pour se révolter et pour encore et toujours lutter.
Youpi, c'est le mois de novembre. Alors on a commencé par ce petit tour du monde et qui s'est terminé en France. Et nous, on va parler local. On accueille aujourd'hui Clémentine, qui est donc animatrice au planning familial du Loiret. Bonjour Clémentine.
Bonjour.
Alors ça nous a semblé important de te recevoir et donc à travers toi, c'est donc toute l'équipe du planning familial
en toute modestie
que nous recevons pour parler de deux choses qu'on va aborder l'une après l'autre. D'abord un petit peu l'actualité autour du 25 novembre qui sera pour vous autour du 28 novembre, enfin on expliquera un petit peu. Et puis aussi parce que vous avez une actualité, j'ai presque envie de dire artistique, autour du documentaire dont on avait parlé lors de notre émission précédente au Ponton. Le documentaire que vous pouvez regarder donc sur la plateforme France TV. Intitulé « Sans rendez-vous au planning familial ». Donc on a pas mal de choses à voir, mais effectivement, Glitch l'a rappelé dans son édito, le 25 novembre, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes et contre les violences de genre. Et à ce titre, pas mal d'assauts féministes vont se mobiliser au niveau international, national et puis localement. Ça nous semblait important de faire un petit peu le point, et on le fera tout au long de l'émission, sur les différents rendez-vous qui seront programmés localement. Alors, Clémentine, est-ce que déjà, avant peut-être de parler de ça, mais le planning familial, c'est un peu un incontournable aujourd'hui, c'est presque une institution en France, mais il faudrait que ce soit encore davantage, mais en tout cas, on a tous entendu au moins une fois le nom du planning familial, mais je pense que c'est important quand même de rappeler que tu nous redises, mais qu'est-ce que c'est le planning familial ?
Mais oui, qu'est-ce que c'est ? Alors le planning familial, c'est avant toute chose une association féministe, une association de lutte pour l'évolution des droits, pour une société progressiste en tout cas, et puis une association qui facilite l'accès à la santé sexuelle de manière très générale, puisque on traite aussi bien des problématiques de couple que de la contraception, que de l'avortement, comportement que des questions liées à l'identité de genre ou aux différentes orientations, etc. Et notre enjeu militant, c'est vraiment de faire de l'éducation populaire, donc à la fois d'aller vers et de partir de là où en sont les personnes, de ce qu'elles connaissent déjà et des ressources qu'elles possèdent elles-mêmes.
Alors quand je parle d'institution, c'est parce que le planning familial a une longue histoire. Tu peux nous en dire un petit peu plus ou
Alors sur l'historique vraiment du planning familial, je saurais pas trop quoi en dire, si ce n'est que effectivement ce mouvement a émergé dans les années 60 au moment de la légalisation du droit à l'IVG, qui enfin voilà, ça prend un peu sa genèse dans le MLF, en tout cas de ce que j'en sais. Et puis ça a migré avant le planning familial, ça s'appelait maternité heureuse.
Tout à fait.
Maternité heureuse pour dire bon bah on a le choix, on a le droit de pas avoir envie d'être parent, on a le droit de choisir quand on a envie de l'être si c'est le cas, et voilà, puis ça a migré, enfin ça a changé en planning familial, alors je sais plus quand précisément, mais en tout cas aujourd'hui c'est ainsi que ça s'appelle, et c'est vraiment orienté sur le fait que bah on choisit avec qui on est, avec qui on vit, quelle famille on a envie d'avoir ou pas, et en tout cas avec l'idée d'avoir une sexualité aussi libre que possible et sans contrainte.
Et donc tu l'as très justement rappelé, hein, c'est quand même lié à l'histoire aussi du féminisme, hein, c'est né de ça, ça se nourrit de ça, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui le planning familial est à nos côtés dans les différents mouvements et contestations féministes. Qu'est-ce que vous faites ? Ça veut dire quoi au quotidien, travailler au planning ? Par exemple, toi, qu'est-ce que tu fais ?
Waouh, vaste question. Alors, c'est un boulot qui est hyper riche parce qu'en fait, on fait des tas de choses très différentes au cours de la journée. Finalement, ce qui est, on en reparlera tout à l'heure, mais ce qui est présenté dans le documentaire, c'est un peu une maigre partie de ce que l'on fait au quotidien, parce qu'on a à la fois la possibilité d'accueillir du public dans nos locaux, on a 3 antennes pour le planning familial du Loiret, une qui se trouve à Orléans-la-Source, une à Orléans-Centre et une à Beaugency. Celles-ci sont ouvertes à des horaires différents, et donc on accueille du public de façon confidentielle et gratuite, où toutes les personnes peuvent venir voilà, chercher une contraception, discuter de leur couple, etc., de leur sexualité, de leur corps qui change, des règles qui font mal et ça fait chier. Donc voilà les sujets dont on peut parler, et puis après on travaille aussi avec des médecins, on a une équipe de médecins qui est vraiment formidable, qui sont très engagés aussi, parce que voilà, elles prennent une partie de leur temps et de leur consultation, finalement elles sont peut-être c'est un acte militant de venir travailler au planning familial en tant que médecin, parce que c'est voilà, c'est clairement pas le même tarif qu'ailleurs, et puis donc il y a cette possibilité là, donc de venir nous rencontrer pour parler de tout ce qui est en lien avec la santé sexuelle. On intervient aussi beaucoup à l'extérieur. On accueille à peu près 2000 personnes par an dans nos locaux, et c'est entre 2 et 3 fois plus à l'extérieur, puisqu'on intervient en milieu scolaire pour parler voilà, de l'égalité, pour parler de la santé sexuelle. Et on intervient auprès de plein de publics très différents, parce qu'on va aussi bien en milieu carcéral qu'en protection de l'enfance, qu'auprès de personnes en situation de handicap. Donc c'est très très diversifié, avec à la fois des accueils collectifs, individuels. Voilà, donc un quotidien au planning familial, c'est plein de moments de rencontre, une grande souplesse psychique.
Voilà. D'accord. En fait, on est un département quand même vraiment rural. Est-ce que, petite question, il y a des accueils téléphoniques ?
Tout à fait. On a une ligne téléphonique qui est joignable sur nos horaires d'ouverture. Et puis si jamais nous, on n'est pas joignable à ce moment-là, il y a aussi un numéro vert national qui est pris en charge par différentes associations départementales du planning familial, qui est joignable bien plus largement, de 8h à 20h si ma mémoire est bonne. Voilà, c'est une ligne d'écoute qui est ouverte à toutes et tous.
D'accord. Donc on peut trouver ça sur votre site internet.
Tout à fait. Hein,
d'accord, qu'on peut aller consulter. Alors tu l'as évoqué là un petit peu quand tu as parlé de tes missions, en disant bah, c'est une partie de ce qu'on voit dans ce documentaire. Hein, donc je rappelle, hein, sans rendez-vous au planning familial, et que l'on peut voir sur la plateforme France TV jusque très loin, février 2027. Donc vous avez le temps. Mais regardez-le. On en avait dit du bien, nous, parce que ça nous semblait important de montrer à quel point le travail accompli par les personnes au planning familial, il est, tu l'as dit, militant, il est essentiel, il est nécessaire, là où eh ben, l'État n'est pas toujours très présent, là où on peut aussi vivre dans des déserts médicaux, comme c'est le cas chez nous. Alors peut-être, juste avant d'en parler, je vais lire un petit peu le texte rapidement, le texte de présentation qui introduit ce qui présente la note d'intention, on va dire, de ce documentaire, et puis après je vous proposerai d'en échanger. Noor pense être enceinte, Mia vient d'apprendre qu'elle l'est et souhaite avorter. Morgane, elle, ne trouve pas de professionnel qui puisse l'accompagner dans sa prise d'hormones. Jade, quant à elle, vient de subir une agression sexuelle. Tous ces jeunes sont en pleine situation d'urgence et de fragilité. Issus de milieux sociaux différents, ils ont choisi de pousser la porte du planning familial d'Orléans afin d'obtenir de l'écoute, de l'aide et trouver des solutions. En les filmant lors de leur passage en ce lieu, ce documentaire dresse le portrait d'une jeunesse et de son rapport à la sexualité. On y mesure l'ampleur des tabous, tout en réaffirmant la nécessité de l'existence d'une telle structure. Et on te voit, Clémentine, dans ce documentaire, à plusieurs reprises. Ça t'a fait quoi de te voir ?
Très bizarre.
Ouais, toujours.
C'est malaisant, oui.
Ouais. Et tu vas voir, s'entendre à la radio après, ça fait toujours bizarre.
Ouais,
aussi.
C'est génial.
Alors, comment, pourquoi ce documentaire ? J'imagine, est-ce que c'est vous qui l'avez demandé, commandité ? Comment, est-ce que tu connais un petit peu l'histoire ?
Alors, pas du tout. En fait, effectivement, c'est Marion, l'une des réalisatrices du documentaire, qui est venue à notre rencontre et qui avait ce projet-là, en fait, depuis pas mal de temps, pour donner de la visibilité, finalement, à l'association. C'était ça son enjeu principal, je crois. Et en tout cas, de mettre en lumière à quel point le boulot qu'on fait est nécessaire et que c'est pas la peine de mettre un petit mouchoir sur les problématiques quotidiennes des gens. Ouais. Elles existent, elles sont bel et bien là. Et donc, c'est nécessaire de les visibiliser. Donc, c'est elle qui est venue à notre rencontre. On en a échangé longuement en équipe parce qu'il y avait quand même l'enjeu d'accueillir une équipe de tournage pendant pas mal de temps.
Sûr.
Parce qu'effectivement, Marine et Marion sont restées assez longtemps à nos côtés.
Combien de temps ?
Je sais plus exactement, je crois que ça représente une soixantaine de jours de tournage
répartis
sur plusieurs mois. Ouais, parce que évidemment les personnes qui figurent dans le documentaire étaient d'accord pour être filmées,
oui.
Et il y a beaucoup de personnes qui viennent au planning familial qui ne souhaitaient pas l'être, même si on demandait à tout le monde. Et puis ben, voilà, c'est le lot des permanences sans rendez-vous. Parfois il y a beaucoup de monde, parfois il y en a pas. Mais en tout cas, voilà, c'était un gros enjeu organisationnel que de les accueillir aussi avec nous, parce que voilà, un entretien qui peut durer en moyenne une demi-heure, ben là ça durait un petit peu plus de temps, le temps qu'on mette les micros, qu'on les enlève,
ouais.
Qu'on s'installe dans la salle, qu'on fasse les entrées, les sorties, les petits plans, etc.
Bien sûr. Et donc ça veut dire on a quelqu'un qui prend l'image et une autre personne qui prend le son. Il y avait deux personnes en plus dans ces endroits où vous receviez vous, les gens qui arrivaient au planning ?
Ouais, à chaque fois, elles étaient toutes les deux. L'équipe de tournage était constituée de deux personnes, donc les deux réalisatrices. Et voilà, c'est tout. Et elles avaient plusieurs caméras installées dans différentes pièces du planning à chaque fois. Mais ouais, c'était quand même une sacrée organisation. Et puis, c'est très courageux aux personnes qui ont accepté d'être filmées. Voilà, d'avoir eu ces entretiens où elle livre des choses extrêmement intimes avec ce regard extérieur, mais qui était extrêmement bienveillant, parce que voilà, Marine et Marion comprennent aussi parfaitement bien les enjeux de notre association et avaient une posture tout à fait juste et adaptée vis-à-vis des personnes qui étaient accueillies.
D'accord. Et qu'est-ce que je voulais vous demander ? Oui, c'est un doc militant, du coup ?
Bah ouais, moi je crois.
Et est-ce que pour toi, ça reflète un petit peu ce qui se passe vraiment au planning ?
Moi, ma petite frustration, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est que finalement, ça montre vraiment qu'une petite partie de ce que l'on fait et de notre engagement militant. Et puis, bien entendu, c'est un documentaire, donc il y a des coupes, il manque des choses. Il manque tous ces moments où on se retrouve autour de l'îlot, à côté de la machine à café, pour discuter des situations qu'on vient de rencontrer, des nœuds pédagogiques qu'on peut avoir quand on revient d'un interventions en milieu scolaire. Il manque tout ça, il manque tout cet enthousiasme autour de projets qui sortent. Il manque quand même quelque chose. Et puis il manque aussi cet aller vers. Mais bon, peut-être que ça fera l'objet d'un second documentaire, j'en sais rien. Mais en tout cas, cet aller vers qui constitue quand même une très très grande partie de notre travail. Ça figure pas encore et c'est pourtant quelque chose qui charge énormément notre quotidien et qui est vraiment un enjeu central, je crois, du militantisme au sein du planning familial, qui est d'aller débunker les idées hyper stéréotypées chez les jeunes principalement. Et on se rend compte que c'est nécessaire et qu'on arrive déjà même parfois trop tard pour pouvoir travailler certains sujets, quoi.
Il y a des moments quand même très touchants dans le documentaire. Où on sent quand même quand tout le monde est autour de cette personne sur son lit et avec des soutiens, des mots d'encouragement, on sent une attention quand même, une écoute, et ça c'est quand même un petit peu important de le montrer, surtout que peut-être je ne sais pas, c'est une question que je pose, est-ce que peut-être il y a des inquiétudes sur les financements?
Oui, bah bien sûr, on a toujours des inquiétudes sur les financements.
On est une association qui dépend de subventions.
On reste une association, voilà, tout à fait. On est une équipe qui grandit aussi, parce que nos actions se développent aussi, mais les financements ne suivent pas forcément toujours. Surtout quand on essaye de développer des nouveaux projets, de travailler auprès d'autres publics, d'ouvrir un petit peu notre travail. C'est vrai que faut toujours justifier de pourquoi on fait les choses, évidemment. Ça a du sens en soi, surtout avec les dernières élections européennes, là, on a pas mal serré les fesses, très clairement. Et on continue à le faire, parce que quand on voit dans les pays voisins, que ce soit en Italie, en Pologne, etc., les gouvernements qui sont au pouvoir à l'heure actuelle, on n'est pas à l'abri d'un passage à l'extrême droite. On n'est pas à l'abri de qu'on nous dise il n'y a plus de sous, de couper tous les vivres. On n'est pas à l'abri de ça.
Et puis tu l'as dit, tu l'as évoqué aussi en filigrane, c'est-à-dire toutes ces postures très réactionnaires aussi qu'on entend, qui interviennent largement dans le débat public, dont vous pouvez faire les frais aussi. On sait que vous avez des locaux, par exemple, qui ont pu être tagués, par exemple. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui se donne à voir, cette résistance... aux droits des femmes.
Ouais, bon alors nous c'est vrai qu'à Orléans ça va, on n'est pas, on n'est pas trop impacté par ce genre de situation, mais dans d'autres AD il y a eu des actes très très forts. Bon, nous au pire on nous a volé notre sonnette et apparemment le gardien de l'immeuble nous a dit avoir vu, ou une résidente de l'immeuble nous a dit avoir vu un groupe faire des prières. Devant le planning un samedi matin.
Bon. Ah tiens, d'accord. Ouais,
c'est original.
Ok. Du coup, je me suis laissée emporter parce que tu parlais d'un petit peu de ce que tu faisais au quotidien en planning, et puis je me suis mise à parler du documentaire. C'était pas vraiment ce qu'on avait convenu, mais c'est pas grave, c'est bien. En même temps, c'est fluide, comme ça. Je regarde un petit peu en technique, on me dit oui, c'est fluide. merci beaucoup pour cette présentation. Et quand même, malgré les défauts, et j'entends bien, parce que quand on y est, c'est toujours compliqué de voir un petit peu tout ce qui manque. Je vous engage quand même à voir ce documentaire. Tu voulais rajouter?
Ouais, je voulais rajouter aussi quelque chose. C'est vrai qu'au niveau des sujets qui peuvent être abordés au planning familial, on entend souvent la contraception pour les mineurs, blablabla, l'IVG. Or, le planning familial est une asso ouverte à toutes et tous, quelle que soit l'identité de genre. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui manque un peu dans le documentaire. C'est les questions LGBTQIA+, qui nous tiennent vraiment très, très à cœur. Et c'est un public qu'on a à cœur d'accompagner davantage. De même, dans notre enjeu militant, on reçoit quotidiennement, je vais dire, des personnes en situation de migration qui ont été victimes de mutilations génitales féminines.
On avait reçu d'ailleurs le groupe l'année passée à l'occasion du 25 novembre dans notre émission.
Ouais. Et donc tout ça, c'est important, je pense, de redire que ça figure pas dans le documentaire, mais ça existe et ça fait partie aussi des personnes discriminées, mises à l'écart de la société, qu'on a à cœur d'accompagner vraiment un peu plus fort.
Complètement, c'est très important que tu le soulignes. Alors, on voit à un moment donné des hommes sur des groupes autour de la... j'ai perdu.
Contraception.
Contraception, masculine. Bon, voilà. Non, je veux dire, on les voit, quoi. Enfin, oui, on sait, oui, on sait oui. que ça se passe. Parce que tu parlais de la multiplicité du public accueilli. Donc, effectivement, il y a aussi des hommes. Bien, eh ben, écoute, on te remercie. On va revenir vers toi juste après avoir écouté ta petite chanson de cœur. Qu'est-ce que c'est ta petite chanson de cœur, Clémentine? Est-ce que tu peux nous dire?
Je ne sais pas si j'ai le droit de dire des gros mots au micro, mais...
C'est complètement. Enfin, chez nous, si tu
pas
peux.
Pas censuré.
Ouais. Génial. Donc, ce morceau s'appelle Fuck et c'est un morceau de Camion Bip Bip. Ça va arriver, pas Camion Bip Bip, qui est un groupe de personnes queer qui est vraiment incroyablement génial et hyper militant. Et j'aime beaucoup cette chanson-là aussi parce qu'elle rappelle à quel point c'est pas parce qu'on n'est pas concerné par une cause qu'il faut pas se bouger. Parce que si les droits de certaines catégories de la population sont mis en péril, les nôtres aussi, même si on a des privilèges. Donc, faut aller voter et faut pas oublier que voilà, tous nos droits sont fragiles.
Tout à fait. Vous êtes bien avec les clitoriciennes et on retrouve Clémentine du planning familial du Loiret qui est avec nous. On a parlé un petit peu avant du documentaire Sans rendez-vous au planning familial qu'on va vous redire pour la millième fois de regarder sur la plateforme France TV.
Vous avez jusqu'en 2027, ça va aller.
Et par contre, maintenant, on va parler sérieusement là parce que Clémentine a rappelé la nécessité de se mobiliser à un moment donné hein, et de ne pas baisser les bras et de se dire que nos droits, ils sont fragiles et qu'il faut qu'on soit dans la place, il faut qu'on occupe l'espace public. Donc, le 25 novembre, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Et le planning est impliqué aussi dans cette journée. Alors, ce ne sera pas le 25, parce qu'il va y avoir manif hein, à Orléans. Peut-être on vous redonnera les détails, d'ailleurs, sur nos réseaux, sur Instagram, ouais. Les clitoriciennes. Toujours est-il que le planning familial sera dans la place le 28 novembre, Clémentine, je
c'est
ne me trompe pas.
Tout à fait ça.
Tu nous en parles ?
Oui, tout à fait. Donc le 28 novembre, nous accueillons Lucille Pétavin, qui est une essayiste qui a écrit un livre qui s'appelle « Le coût de la virilité » et qui met en lumière à quel point les comportements virilistes, masculinistes coûtent de l'argent à la société parce que d'encourager les prises de risques multiples, d'encourager les déviances, les délits, etc. auprès de la gente masculine, et ben, ça fait payer cher la société en frais médicaux, en frais de réparation, en frais
pénitentiaires.
En frais pénitentiaires aussi, effectivement. Et voilà, alors je ne sais plus à quel montant elle estimait ça.
Je crois que c'est autour de 90 milliards.
Hein. Ouais.
Alors bon, les chiffres sont quand même, on va le dire, d'ailleurs on va vous dire deux choses. La première chose qu'on va vous dire, c'est que Lucie Pétavin, on va l'interviewer pour les clitoriciennes.
Oui, c'est incroyable.
Ah, c'est fou. On va en profiter de sa venue et puis donc on pourra causer avec elle. Mais bon, les chiffres sont soumis à discussion dans les assos féministes. En tous les cas, effectivement, ça a été une des premières en France en tout cas à comptabiliser le coût de la virilité et ce que nous coûtent tous ces comportements masculinistes, virilistes, de mise en danger, comme tu l'as dit, est-ce que coûtent les violences, le coût caché des violences masculines.
Ouais, tout à fait. Et donc Lucile Pétavin vient à la médiathèque d'Orléans le 28 novembre donc à 20h30 et elle fera une conférence et une séance de dédicace de son livre et nous serons bien entendu présentes de l'assaut du planning familial pour pouvoir animer un petit peu cette soirée. Elle sera également avec nous l'après-midi autour d'une table ronde où il sera question de à quoi ça sert quand on travaille dans l'éducation populaire de venir questionner, de venir travailler la question de l'égalité avec les jeunes et comment on le fait. Et donc on rassemble plusieurs associations du territoire pour pouvoir échanger avec elles autour de ce sujet-là. Donc j'espère que ça va donner lieu à des réflexions intéressantes et qu'on va avoir encore plus envie de le faire.
Donc l'après-midi, c'est au CRIJE, Centre d'information jeunesse qui se trouve rue de la Chollerie à Orléans. C'est sur inscription. Je pense que si vous souhaitez venir, il faut regarder un petit peu sur le site du planning et vous trouverez le soir à l'auditorium de la médiathèque.
C'est sur inscription aussi. Tout à fait, ouais. Comme la jauge est limitée.
Tout à fait. Inscrivez-vous, ça va être intéressant, je pense. Les discussions vont être intéressantes. L'après-midi, tu dis, on va échanger entre actrices, on va dire, de l'éducation à l'égalité. Est-ce que, par exemple, parce que toi tu parlais de tes interventions en milieu scolaire, est-ce que ce dont tu parlais, ces comportements virilistes, tout ça, est-ce que ce sont des choses que vous rencontrez, que vous constatez, vous, quand vous intervenez, notamment à l'extérieur du planning, auprès des jeunes, hein, que ce soit en établissement scolaire ou autre ?
Alors, des comportements virilistes, on n'en observe pas forcément, mais des discours très clairement, très clairement. La victimisation, les « not all men », ça on en entend tous les jours. On peut quand même encore avoir des trucs assez intéressants du style c'est normal qu'elle se soit fait violer parce qu'elle s'habille beaucoup trop court, fallait pas qu'elle prenne ces risques là
de la part de jeunes.
Tout à fait. Moi j'ai pas assisté à ça, mais on a aussi je crois que c'était en fin d'année scolaire dernière, des discours autour des tradwives,
ces
jeunes filles qui ont parfaitement bien intégré qu'il fallait qu'elles restent à la maison, qu'elles soient de bonnes épouses pour leur mari, c'est-à-dire qu'elles fassent la cuisine, qu'elles s'occupent des enfants et qu'elles ferment bien leur bouche, mais tout en s'apprêtant quand même suffisamment pour être assez désirables aux yeux de leur mari. Et donc il y a des jeunes qui ont bien intégré ce truc-là. En fait, ce qui est assez désarmant finalement, c'est que il y a vraiment deux mouvances chez les jeunes. Il y a des jeunes qui sont hyper déconstruits, qui ont une réflexion ultra pertinente et parfois même extrêmement militante et bien ancrée. Et puis d'autres qui sont dans des stéréotypes monumentaux en invoquant des causes naturalistes, biologiques ou que sais-je, pour dire mais c'est normal qu'il y ait des inégalités, c'est normal que les femmes soient moins bien payées, c'est normal que les filles elles puissent pas sortir le soir, c'est normal tout
mais
ça quoi.
Est-ce que les deux sont pas finalement liés à avancer le phénomène de backlash dont on parle régulièrement, le fait qu'il y ait des crispations réactionnaires Voilà. Est-ce que c'est pas lié? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, au planning, ou toi déjà, Clémentine?
Bah, moi, je
vous en parlez, j'imagine.
Ouais, ouais, ouais. Bah oui, ça fait partie des sujets de discussion qu'on peut avoir, en effet. Oui, c'est probablement réactionnaire. C'est très probablement réactionnaire, et c'est pour ça que de plus en plus, avant de se présenter comme une association féministe, on se présente comme une association de lutte contre les discriminations. Ouais. Et donc d'emblée, voilà, on fait appel au questionnement d'alliés, en fait, chez les jeunes. Moi, je suis pas victime de cette discrimination-là, par exemple. Moi, je suis pas victime de racisme. Je suis capable de dire que je trouve les agissements racistes injustes et complètement dégueulasses. Pour autant, je ne peux pas comprendre ce qu'une personne non blanche
tout à fait, bien sûr.
Et du coup, bah, je suis obligée d'écouter cette personne-là. Et donc, on essaye de travailler aussi la question de l'empathie, finalement, avec les jeunes, pour qu'ils puissent essayer de se mettre à la place d'eux, et que certes, bah, en fait, on vit pas les mêmes choses, mais on souffre tous du même truc, c'est de la société patriarcale qui vous fait du mal à vous aussi, les mecs, et qui fait du mal à tout le monde au final.
Bien sûr, complètement. Ok, donc vous êtes dans une approche intersectionnelle.
Complètement.
Et donc ça, c'est important comme approche pour, on va dire, peut-être déjouer les pièges des masculinités hégémoniques qui peuvent se manifester dans les dans ce type d'atelier.
Ouais, bah oui, en tout cas j'y crois complètement. Oui.
Ouais. Bon, on pense aussi que c'est plutôt une bonne idée, quoi. Hein, ceci étant, ça renvoie quand même à Lucie Pétavin, peut-être, hein, donc, qui interviendra, on vous le rappelle, à l'auditorium de la médiathèque le 28 novembre à Orléans. Elle travaille quand même sur cette question des masculinités. C'est un peu ça, quand même, Lucie Pétavin, de dire qu'il y a des masculinités qui s'expriment, et que cette violence, parce qu'on le rappelle, hein, parce qu'il y a des « ouais, ouais, c'est pas tous les hommes ». Bon, on va rappeler que quand même, si, c'est sur la question des
beaucoup.
VSS, violences sexistes et sexuelles, je pense qu'on peut situer en fonction des différents chiffres, parce que bon, en tout cas, entre 80 et 90%, voire même plus, des auteurs de violences sexistes et sexuelles sont des hommes. Alors, ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que tous les hommes sont forcément des violents et voilà, mais ça veut dire que dans la construction, c'est ça qui vient interpeller, c'est que dans la construction des masculinités, il y a quelque chose à voir avec la violence, et que tout ça a un coût, et peut-être dès l'école aussi, et pouvoir faire les frais dans vos ateliers.
Ouais. Clairement. Bah, enfin, oui, et on voit que c'est des choses qui sont à travailler dès le plus jeune âge. Là, nous, depuis peu, là, on intervient avec une collègue auprès d'une classe de CE2. Une partie de l'équipe du planning a été formée à un dispositif qui s'appelle PRODAS, qui est vraiment toute une série d'interventions autour des compétences psychosociales. Donc vraiment, on travaille sur la question de l'empathie, de la relation aux autres, de l'écoute, etc. Et on se rend compte que même dès le CE2, il y a des choses qui sont déjà très ancrées.
Oui.
Et quand tu vois des petits gamins qui essayent de faire le bonhomme comme ça, là, super.
On estime que la mise en place des stéréotypes de genre, hein, comme on dit, elle se fait aux alentours de 2 ans, mais elle est déjà présente par l'imitation aussi qu'on peut avoir du couple,
complètement.
Parental. Hein.
Et puis il y a des études de psychosociologie qui sont reproduites, qui sont reconduites assez fréquemment, où on montre une vidéo d'un bébé qui pleure. J'imagine que vous la connaissez. Ce bébé qui pleure, au premier groupe d'adultes, on dit c'est une petite fille, qu'est-ce qu'elle a? Oh, bah, dis donc, elle doit être triste, elle a besoin d'être très confortée. Voilà. Et par contre, à l'autre groupe, on dit c'est un petit garçon qui pleure, qu'est-ce qu'il a? Oh, bah dis donc, il a du caractère.
Il est fort,
il est en colère.
Et donc, on ne prête pas du tout les mêmes intentions à un bébé qui est exactement le même sur cette vidéo-là.
Et en fait, on va naturaliser aussi des émotions, et les émotions même des bébés. Déjà.
C'est ça. Ouais.
Bien, alors. Ne loupez pas la venue de Lucie Pétavin, et vous pourrez retrouver en plus une masterclass Lucie Pétavin après sur les clitoriciennes. Voilà, ça va être trop trop bien. Et puis donc, on voulait savoir aussi quelle était l'autre actualité. On a vu qu'il y avait le gros truc quand même du 28 novembre, hein, et on espère que ça va bien marcher. Est-ce qu'il y a une autre actualité du planning là?
Alors parmi les actualités qu'on peut avoir, il y a la mise en place, donc avec une médecin qui s'est vraiment spécialisée, formée dans l'accompagnement des personnes en démarche de transition. On va mettre en place des consultations collectives, un petit peu sur le même format que ce qui est visible dans le documentaire, c'est-à-dire un accueil collectif avec des personnes concernées qui en sont à différents endroits dans leur réflexion. Et donc cette médecin-là, elle pourra accompagner aussi sur la prise en charge médicale des personnes concernées. Et puis on a vraiment cette idée de de mettre en place un groupe d'auto-support aussi, parce qu'on sait très bien que c'est les personnes concernées qui savent le mieux parler de leur sujet. Et donc voilà, de créer ça. Pardon. Et donc ça devrait débuter soit à la fin 2024 là, soit début 2025. Mais voilà, ça fait partie des gros projets, des grosses choses qu'on va mettre en place. Sinon, je sais pas trop quoi dire d'autre en matière de.
Vous travaillez avec les associations qu'on a déjà reçues, ouais. Par exemple l'OST,
ouais,
organisation Solidarité Trans, qui existe localement et qui font plein de trucs, qui font aussi de l'accueil et des permanences. Le groupe Action Gay et Lesbien d'Orléans aussi, le GAGL. Vous travaillez?
Un petit peu. Après, voilà, on sait qu'on. On va pas aller au contact des mêmes publics non plus. Ouais. Effectivement, le GAGL s'adresse peut-être à des personnes un peu plus âgées. Nous, on accueille beaucoup de publics jeunes parmi les populations queer. Pas mal de personnes, oui, en démarche de transition, autour de la question de la non-binarité, des personnes lesbiennes aussi, beaucoup. Disons qu'on a un travail complémentaire, en tout cas sur le territoire, en matière de propositions, d'événements, en matière d'accompagnement. Donc c'est intéressant qu'on existe tous sur le territoire. Et puis effectivement, oui, OST vient dans les locaux du planning familial pour pouvoir faire ses permanences à l'heure actuelle. Mmh. Donc on travaille plutôt pas mal avec eux.
On peut donc, tu as dit, il y a trois adresses, La Source, Orléans-la-Source, Orléans-Centre et puis Beaugency. On peut vous retrouver aussi sur votre site internet et sur les réseaux sociaux et notamment Instagram. Et j'en parle parce que c'est vrai que c'est toujours riche un peu les publications, c'est alimenté régulièrement donc c'est toujours intéressant. Et j'en parle parce que c'est vrai qu'on s'est interrogé avec les copines des clitoriciennes l'autre fois. On a vu un appel à témoignage. Suite aux agressions sexuelles subies par une des personnes du planning familial, par un des médecins fondateurs quand même du planning. Et alors, au-delà de, on va dire, du truc vraiment horrible de ce qui est décrit, on a trouvé quand même que la démarche de transparence et de réagir tout de suite, on en a beaucoup discuté, on s'est dit... C'est vraiment bien, quoi.
C'est la seule manière de faire, en fait, a priori. Moi, je trouve que c'est la seule manière de réagir à des attaques comme celle-là. Et le planning l'a fait sur son compte Instagram public et national.
Avec un appel à témoignage.
Ouais, avec un appel à témoignage, une ligne et un email, je crois.
Et alors, du coup, on s'est dit, mais c'est quand même fou, parce que c'est un peu comme les gens, vous savez, qui étaient à MS, qui disaient « Quoi ? L'abbé Pierre ?» Bon, ouais, ok, l'abbé Pierre. Mais là, on parle du planning familial et on se dit, dans une asso féministe, ça se passe, ça existe, ça. Comment, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà en tête? Est-ce que vous en parlez? Comment ça se passe, du coup? Ça nous a interpellés, nous, on s'est posé la question.
C'est vrai que nous aussi, ça nous a interpellés. Effectivement, sur la prise en charge, c'est vraiment super. Maintenant, je pense qu'on est un peu comme tout le monde et qu'on se dit que ça n'arrive qu'aux autres. Donc, c'est pas forcément un sujet dont on s'est... tellement préoccupé. Après, nous, sur l'accueil des bénévoles, on a quand même à cœur de plus en plus, on est très très sollicité en matière de demande de bénévolat au planning familial et on prend le temps de rencontrer toutes les personnes. Et alors, je dis pas qu'en une heure de discussion, on peut savoir si les gens sont OK ou pas, mais en tout cas, on essaye de faire en sorte de rendre cet environnement associatif le plus safe possible. Et si toutefois il se produit des choses, on réagit aussi. On réagit assez rapidement. On a pu déjà dû recadrer des comportements au sein de l'association.
D'accord.
Et c'est bien que tu parles des bénévoles d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on a oublié d'en parler. Le planning familial, ce sont des bénévoles. Tu dis que vous les formez. Il y a combien de bénévoles au planning familial du Loiret, par exemple, d'Orléans?
Il y en a assez moult, sur le papier. maintenant, parmi les personnes vraiment actives, je pense qu'on est quand même entre 30 et 40 personnes vraiment actives. Et parmi elles, il y a les membres du CA, parce qu'évidemment, comme on est une association, on a un conseil d'administration qui est bénévole aussi. Et les bénévoles nous accompagnent très principalement lorsqu'on intervient en milieu festif, quand on a des stands à l'extérieur, etc. Et ils font un travail complètement incroyable. On a des bénévoles qui ont des ressources complètement, complètement hallucinantes. Je repense notamment, on a eu une idée un jour en réunion d'un nouvel outil et paf, on a une de nos bénévoles qui nous l'a fabriqué en bois, quoi. C'était trop, trop génial. Trop génial. Et on a même des bénévoles qui se sont mobilisés pour mettre en place une newsletter. Donc il y a plein de choses à faire pour faire vivre aussi cette association en interne. Par et pour les bénévoles. Et c'est important, effectivement, de dire que bah, sans eux, on n'existerait pas non plus. Et puis c'est une force vive qui nous stimule. Finalement, on fait un travail très humain et très réflexif. Et puis bah, notre veille politique, elle est pas toujours, on n'est pas toujours hyper alerté sur tout. Et donc d'avoir tous ces cerveaux en ébullition, un peu dans tous les sens, ça fait du bien aussi d'avoir ces échanges. Et puis bah ouais, de se dire qu'on n'est pas tout seul à penser de certaines manières aussi.
Donc il y a toujours un appel à bénévoles de toute façon. On peut vous rejoindre.
Alors vous pouvez adhérer avec très grand plaisir, rejoindre les bénévoles. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'on peine à leur trouver des choses à faire, même si voilà, certaines s'emparent de sujets volontairement. Mais oui, quoi qu'il arrive, tout le monde est bienvenu.
Voilà, donc on est accompagné. Et puis Clémentine vient de le rappeler, c'est vrai que la première forme de soutien à apporter à une association, quelle qu'elle soit, et notamment pour le planning, avec aussi tout le questionnement autour des financements et de la pérennité de ces financements, c'est déjà d'adhérer. C'est pas très cher, hein, je crois que c'est 20 euros l'adhésion.
Oui, c'est ça.
Voilà, ça peut se faire en ligne.
Tout à fait.
Donc, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, soyons militantes, soyons militants et puis prenons notre adhésion au planning. Clémentine, merci, tu vas rester avec nous pour nos fameux plans cul et on se retrouve. En attendant, avec donc Juliette qui est à la technique aujourd'hui, et merci beaucoup à elle et à la show, et on va vous présenter notre artiste chouchou à toutes les deux.
Et oui, ici la voix de la régie technique, pardon, qui a présenté Quétempest, que j'ai découvert du coup à la Route du Rock l'été dernier, et on va écouter Salt Coast.
Crumble into chalk at your edges. I love the way you fade into a sky that is as endless as your willingness to try. Keep going, and it will get better. I love the way you push to get clear. I love the way you dance to get strong. Ancient, slick clay, rock formed, wet sand, moss born. What came before, and what will come after? Beneath the orderly cues, the bad moods, the nice views, the have-nots and have-tos, the night shifts in flat shoes, the discarded masks, the empty tubes, the colds, the flus, the reds, the blues, the buy to let, the play to lose, the white ace, the grey goose, the Michelin star, the fast food, the straight lies, the strange truth. I can hear the deep rasp of your laughter, joyful. Beneath the stifled resentments and microaggressions, all part of the fabric, the tension woven so tight it defies its dimension. The see, but don't feel. The know, but don't mention. There you are, hedonistic, self-destructive, insecure, trying to get away from the mistakes you made before. Salt coast, foul wind, old ghosts, scrap tin. Leaves, rain, salt coast, foul wind, old ghosts, scrap tin, leaves, to change. I appreciate your efforts, acknowledging your privilege but prone to backstepping. Sure, it's not by our past that our future will be measured. It's by the very moment that we're slumping in disheveled, 6 hours into some TV show that tastes like the feeling of pizza. I know what you reach for, all dressed up with nowhere to go, benched, waiting for a path to open up, waiting for a thing that might make you old enough to get into the pub where people drink to lost youth. I see you scraping the gravel in your Air Max, so beautiful, so chaotic, so grounded. Home, concrete and loam, brick dust and loans, wood floors, screen doors and a place of your own. Pay it off the rest of your life, but who's asking? Restless, the damp night approaching, distilling the heat, too long on your feet, now you want to be free from the strain of what's done in your name. Every single inch of you is somebody's claim, the familiar refrain of their glory and your shame. You just want to keep moving, the energy contained is spilling out and making trouble for you. Nothing is the same. You got out from underneath the weight of suffer and obey, the tyranny and hate of Britannia rules the waves, and now you swing your hips as you go strutting down the lane. I love you when I see you this plain. Your salt coast, your foul wind, your old ghost, your scrap tin, the browning of your leaves and the greening of your rain. Salt coast, foul wind, old ghost, scrap tin, leaves, rain, leaves, rain. Salt coast, foul wind, old ghost, scrap tin, leaves, rain, leaves, rain.
Clitoricienne 88.3 sur Radio Campus. On se retrouve après notre interview de Clémentine du planning familial d'Orléans. On se retrouve pour nos fameux plans cul. Et on commence avec Glitch qui va nous parler d'une maman du mouvement féministe.
Tout à fait. Donc moi j'ai lu le livre de Gloria Steinem, My Life on the Road, en anglais s'il vous plaît. Mais bien sûr c'est Ma vie sur la route en français. Il existe en français, vous pouvez le lire en français.
J'avais même réussi à le traduire, hein, je te signale.
Vous n'avez pas besoin d'être élitiste comme moi. Et Gloria Steinem, bah, c'est vachement intéressant pour plein de trucs. Moi, j'avais cette idée du féminisme des années 70, hyper blanc et tout. Et en fait, elle explique très bien que, bah oui, maintenant on pense ça parce que ça a été complètement effacé des médias, etc. Qu'en fait, à la base, c'était déjà un mouvement intersectionnel et qu'elle, elle y tient beaucoup. Et qu'elle elle est
difficilement
toujours,
intersectionnelle aussi. Enfin,
oui, bien sûr. Mais
en tout cas, ça faisait débat, ouais.
Ou en tout cas, elle essayait de rapprocher de l'intersectionnalité à ce moment-là. Et bien sûr, elle parle du droit à l'avortement parce que ça a été une des grandes militantes pour ça. Et c'est hyper intéressant. C'est un peu presque un récit historique, quoi. Et moi, j'ai adoré me replonger un peu dans les bases de ce mouvement féministe moderne. Voilà. Ça m'a beaucoup plu et je le conseille. Voilà.
En français ou en anglais?
En français,
mais est-ce qu'on sait sur dans quelle édition il est sorti en français
ou... Ah non, ça je ne sais pas en français. Et par contre, je vous conseille quand même de relire un peu comment ça marche aux États-Unis, les lois et tout, parce que c'est un peu. Parfois, c'est un peu compliqué. Elle explique des choses un peu techniques.
De toute façon, on le retrouvera dans les recos que tu nous fais sur Insta.
Oui, je vais tout remettre sur Insta.
D'accord.
Tout à fait.
Juliette, alors tu voulais nous parler de... Alors on reste dans l'anglais, donc tu vas prendre mon accent patate chaude. The Hour Twin.
The Outrun. Oui, c'est tout à fait ça. Donc oui, je voulais parler de ce film que j'ai vu récemment, qui était au cinéma. Alors malheureusement, il n'y est plus, mais je vous recommande vivement de le regarder quand il sortira en DVD ou sur toutes les plateformes certainement. Voilà, donc c'est The Outrun, réalisé par... Excusez-moi, je cherche mes notes, je n'arrive pas à faire la régie technique et ça correctement.
Elle ne fait pas de multitasking.
Ça s'appelle la charge mentale.
Nora Fingsheit. Voilà, excusez-moi encore pour mon accent, et enfin pour mon accent, pour ma mauvaise prononciation certainement, avec du coup une actrice que j'adore, dont je n'arrive pas à prononcer son nom, je suis en avril. Voilà, mais le film est vraiment magnifique. Il n'a pas eu une grosse communication dessus quand il est sorti, donc on n'en a pas beaucoup entendu parler, mais c'est vraiment, je pense, un des films les plus beaux que j'ai vu cette année. Ça parle d'addiction, ça parle de santé mentale, ça parle de deuil, enfin voilà, c'est vraiment très beau, c'est très émouvant, j'ai beaucoup pleuré, mais un bon pleur qui fait du bien, donc voilà, je vous le recommande vivement.
Très bien. Eh bien, merci Juliette. Moi, je vais faire un petit peu écho donc à l'actualité récente en vous parlant d'un film, Les graines du figuier sauvage, qui est sorti en septembre, mais qui est encore visible au cinéma des Carmes à Orléans. Et vraiment, mais vraiment, courez-y vite. Attention, c'est vraiment un chef-d'œuvre et le film a remporté le prix spécial du jury au dernier festival de Cannes. Ouais, je sais, Cannes, c'est du festival de Daron, mais quand même. C'est un drame iranien de Mohammad Rasoulov qui a été conçu en prison et qui a été tourné de manière complètement clandestine avant l'exil forcé de son réalisateur. C'est l'histoire d'une famille iranienne dont les deux parents font partie intégrante des rouages du régime iranien, puisque le père est juge au tribunal révolutionnaire de Téhéran, tandis que les deux filles du couple rêvent d'espoir, d'émancipation portée par ce superbe mouvement « Femme, vie, liberté ». Donc le réalisateur montre à la fois l'élan de liberté qui est porté par les femmes iraniennes et la violence inouïe de la répression dont nous avons vu des images. Et au-delà de ces qualités cinématographiques qui sont incontestables, mais que je ne vais pas pouvoir développer ici faute de temps, je voudrais quand même souligner que ce film, il agit vraiment en ce moment comme un miroir cruel de l'actualité iranienne, puisque nous avons appris ce week-end que l'étudiante Aoud Dariaye, je ne sais pas comment on prononce, qui a été arrêtée après s'être dévêtue en public devant l'université Azad, vient d'être placée dans un hôpital guillemets, psychiatrique, puisque selon les autorités, elle souffre de troubles mentaux. Voilà, donc c'est une bien triste actualité et je voulais rappeler tout le soutien à toutes nos sœurs iraniennes et à celles qui trouvent la force, le courage de résister au gouvernement iranien. Souhaitons que les graines du figuier sauvage éclosent nombreuses. C'était ma conclusion.
Wow.
Ouais. C'est bon. Et Clémentine, toi, est-ce que tu as un plan cul?
On peut parler de sorties à venir par exemple.
Ouais, tout à fait.
Ok. Moi, je recommanderais de venir à la soirée DJ set de Barbara Butch qui se déroulera au Centre chorégraphique national d'Orléans. Donc Barbara Butch, c'est une DJ qui a fait un peu des mules déjà et qui a fait un peu ruer dans les brancards puisqu'elle était présente lors de la cérémonie d'ouverture des JO que j'ai par ailleurs boycotté, mais bon, c'était très bien qu'elle y soit et qu'elle soit visible là-bas. En tout cas, voilà, c'est trop, enfin, ces DJ sets sont incroyablement géniaux, enthousiasmants, etc. Et je trouve ça super de pouvoir soutenir une artiste lesbienne grosse et qui s'affiche de cette façon-là et qui milite de cette façon-là et voilà.
Ouais, très bien. Et c'est super. Très bonne reco. Et on continue après nos plans cul avec un nouveau truc que nous avons envie de faire. Parce que souvent, on discute comme ça entre nous. On se dit, faut que tu écoutes absolument ce podcast. Faut que tu vois, faut que tu écoutes ça. Donc, on s'est dit qu'on allait se faire dorénavant des recos sur les plateformes. Et on commence avec Juliette.
Et oui, c'est moi à nouveau. moi, je recommande le podcast Pourquoi se foule-t-on à courir, qui est donc sur Arte Radio, notamment puisque dedans, il y a l'interview de Vicky Fiquet qui a créé le club de course à pied en non-mixité Run Vénère que nous avons nous-mêmes interviewé, Donc voilà, donc là, elle a un temps de parole un peu plus long, intégré avec d'autres points de vue, d'autres experts et expertes sur la course à pied et qui donne vraiment une vision assez globale. En fait, la question est tout simplement pourquoi est-ce qu'on court et pourquoi on est des milliers aujourd'hui à aller justement se suer tous les dimanches pendant une heure dans le parc du coin. Et en vrai, les réponses sont assez éclairantes. Enfin, moi, j'ai vraiment appris des choses très intéressantes et ça fait toujours plaisir d'entendre du coup des personnes qu'on a nous-mêmes rencontrées qui donnent aussi leur point de vue sur la course à pied et l'importance d'espace en non-mixité, notamment dans la course à pied.
Ouais, merci pour cette reco que moi j'ai écoutée donc en faisant mon footing, mon running ce matin même.
Quelle bonne idée.
Ouais, quelle bonne idée. Et je me suis dit, ah, mais ouais, c'est bien, c'est très très bien. Et je me disais, mais on n'en profiterait pas d'être au micro parce qu'en fait, on doit vous dire qu'avec Juliette, on court toutes les deux.
Non, on doit vous le dire.
On doit vous le dire. Et en fait, Juliette, ça te dirait pas qu'on lance un appel ici même pour avoir un club de running
de ouf,
hein, en mixité choisie sur Orléans.
Génial.
Donc si vous nous entendez, mais n'hésitez pas à nous envoyer des messages
sur
le compte Insta, parce que vraiment, en écoutant ça ce matin, je me suis dit, mais pourquoi on fait pas ça sur Orléans? Mais bien sûr qu'on va faire ça, Juliette.
Mais de ouf, carrément.
Hein, moi, voilà. Je n'irai pas courir, mais je répondrai à vos messages. Si vous
voulez. Voilà, très bien. Moi, je vais vous parler des couilles sur la table. Bon, alors les couilles sur la table, évidemment, je vous rappelle qu'on a interviewé Victoire Toyon.
C'est vrai. Ouais, ouais, ouais.
Mais dans les couilles sur la table, là, moi, j'écoute régulièrement. Je cherche à voir ce que je peux y trouver. Et là, je suis tombée sur une petite pépite. Naomi Titi a reçu Geneviève Cellier, qui est professeure émérite en études cinématographiques à l'Université de Bordeaux. Et elle a écrit « Le culte de l'auteur, les dérives du cinéma français » et c'est paru à La Fabrique en 2024. Je ne l'ai pas lu, mais très franchement, ça m'a donné vraiment envie de le lire. Vous le savez, hein, les témoignages sur les violences sexuelles dans le milieu du cinéma depuis MeToo explosent. Mais en France, il y a quand même un territoire intouché, c'est le cinéma guillemets, « d'auteur ». Donc les dernières figures contestées en date sont évidemment Depardieu, qui n'a même pas pris la peine de se déplacer à son propre procès en tant qu'agresseur sexuel pour raison de santé.
Bah, oui.
Benoît Jacquot, Jacques Doyon, qui sont aussi des exemples de la toute-puissance de l'auteur de cinéma. Donc sous ce statut prestigieux, ça permet donc de justifier des violences et de faire de l'abus de pouvoir au nom de la création et du génie. Et c'est ce qu'a dévoilé notamment Judith Godrèche ces derniers temps, et merci à elle. Donc dans ce podcast en particulier, on apprend comment fonctionnent les mécaniques de la domination masculine dans le cinéma français, les types de masculinité qui sont mises en scène par le cinéma dit d'auteur, évidemment, c'est pas la masculinité des blockbusters hollywoodiens. Et on réfléchit surtout à comment faire pour sortir de ce cinéma de la domination. Je crois que ma phrase n'était pas très claire, mais vous m'avez compris.
Ouais.
Donc tout ça pour vous dire que moi, je me suis délectée à écouter ça en faisant running, et parce que ça vient vraiment bousculer avec bonheur les représentations des intouchables de la nouvelle vague, qui, rappelons-le, la nouvelle vague, cinéma petit bourgeois, patriarcal, bling, oh voilà. Non, il y a aussi des trucs bien, et on, voilà. Voilà, c'était donc ce que je vous recommande, moi, sur les couilles sur la table. Clémentine, tu voulais nous parler de quelque chose.
Oui, moi je voulais vous recommander le podcast Méta de choc, avec toute une série de quatre émissions qui s'appelle Sexualité, un monde de croyances, et où justement Marianne Noisy, qui était directrice du planning familial au moment de cette interview, parle un petit peu des différentes missions du planning familial, des interventions en milieu scolaire de façon très juste. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur notre association et nos actions finalement à l'extérieur, c'est une bonne manière de prendre connaissance de tout ça.
Très bien. Okay. Eh ben merci. On a plein de trucs à lire, à regarder, à écouter. C'est super. On va terminer cette émission tranquillement. On arrive vers la fin. Il nous reste quelques minutes. Et puis on va faire les. On se retrouve. Alors on va se retrouver où? Je crois qu'il y a aussi. On a parlé du 28 novembre avec le planning familial, la médiathèque d'Orléans. Et je crois qu'il y a aussi un incontournable. Et vraiment, il faudrait qu'il y ait du monde parce que ça va être très intéressant. C'est le 26 novembre. C'est la Fédération régionale des CIDFF Centre Val de Loire qui organise avec l'Université d'Orléans une table ronde qui s'intitule Agir contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif. Et je crois que vraiment ça vaut le coup, étudiantes, étudiants, de venir écouter ça. Et tous c'est eux qui vont en festival dont on sait les festivals, on se dit toujours ah c'est super, ça va être l'éclat total, on est on fait péter les codes, les stéréotypes et tout, c'est des espaces de liberté, sauf que eh ben en fait il y a l'anonymat de la foule, il y a la promiscuité, il y a la culture de la virilité que l'on voit aussi s'exprimer, et donc 73% des personnes interrogées dans une étude ont été victimes d'une ou de plusieurs agressions sexuelles lors de ce type d'événement. Alors, on va en parler, et notamment, alors, c'est les clitoriciennes qui vont animer la table ronde, hein, oui. Et voilà. Donc, c'est déjà aussi pour ça que vous viendrez, bien entendu.
Mais notre
c'est
surtout... fan club,
bien entendu.
Voilà, bien entendu.
Et mais si c'est... je puis me permettre de rajouter aussi, lors de cette soirée-là, il y aura une asso avec laquelle on travaille déjà pas mal, qui est Consentis, qui est une association de prévention de lutte contre les VSSD en milieu festif. Et franchement, leur discours est vraiment incroyablement génial. Et au-delà des usagers, usagères, des moments festifs, moi j'inviterai surtout les organisatrices d'événements festifs à y être présentes.
Tout à fait.
Voilà, pour prendre un petit peu de billes et essayer de rendre un peu plus sécure leurs espaces.
Ouais.
Parce que c'est là aussi que ça se joue.
Et il va y avoir notamment, alors il y a pas mal d'invités, hein, il y a Julien Macou de Festival Terre du Son, on a l'association Les Établis, tu as dit l'association Consentis, on aura aussi sa faire.
Safer, si je puis
le dire. Safer, ouais, bah, d'accord, faut toujours mettre l'accent. Et donc, notamment, Julie Bernard, qui vient du cabinet d'études Les Petites Voix et qui a réalisé une étude sociologique avec Louise Gasté. Et donc, c'est un ouvrage qui s'appelle La fête appartient-elle aux hommes, qui a un rapport d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles en festival. C'est vraiment très intéressant à lire, et donc elle le présentera de manière succincte, mais également en même temps détaillée, et ça lancera un petit peu.